Laurent Hassid, bonjour.
Bonjour.
Vous le dites en ouverture d'une géopolitique de la Slovénie, ce pays n'est pas le plus connu de l'Union européenne. La Slovénie, c'est donc l'un des ex-membres de la Fédération yougoslave à avoir rejoint l'Union européenne. 20 000 kilomètres carrés, 2 millions d'habitants, une frontière avec quatre pays, l'Italie, l'Autriche, la Hongrie et la Croatie. Et géographiquement, un pays, on va dire, coincé entre les Alpes et les Balkans. Vous nous expliquez combien ces deux espaces sont fondamentaux dans l'imaginaire slovène. Il relie donc la Slovénie à deux Europes avec deux histoires différentes. Et on réalise, donc, dans votre livre, combien la Slovénie s'évertue à revendiquer son appartenance à la chaîne des Alpes, mais à gommer son appartenance aux Balkans. Pourquoi?
Eh bien, parce qu'en fait, la représentation d'une Slovénie alpine, c'est une Slovénie pro-européenne, orientée vers l'ouest de l'Europe. Et c'est aussi une Slovénie qui se désengage des conflits des années 90 qui ont eu lieu en Croatie, en Bosnie-Herzégovine, au Kosovo. Et c'est d'une manière un échappatoire à une situation politique qui génère des représentations peu favorables dans le sud-est de l'Europe.
Alors que son appartenance aux Alpes, c'est le moyen de revendiquer une place dans l'Europe centrale, au même titre que l'Autriche, à laquelle d'ailleurs elle a appartenu pendant 6 siècles, c'est ça aussi.
Pendant 70 ans où la Slovénie a fait partie de cet État qu'on a appelé au début le Royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes et qui s'est appelé Yougoslavie à partir de 1929, on l'a un peu considéré comme un territoire uniquement balkanique vu de l'extérieur. Or, en Slovénie, le plus haut sommet, c'est le Triglav, qui veut dire en slovène trois têtes. Il y a 2864 mètres d'altitude et c'était non seulement le plus haut sommet de Slovénie, mais aussi de toute l'ex-Yougoslavie. Donc, une Slovénie alpine, c'est un fait géographique et c'est aussi un fait historique, comme vous l'avez rappelé. Une Slovénie balkanique, c'est un fait historique beaucoup plus récent qui est lié à la période yougoslave et qui est unique parce que avant 1918, par exemple, la Slovénie n'avait jamais été dans le même état que les Serbes.
Alors, la Slovénie a donc fait partie de la fédération yougoslave. Est-ce que l'on peut dire qu'à ce moment-là, elle avait une place à part dans cette fédération? Vous nous parlez d'une Slovénie qui était attractive pour les autres membres de la fédération.
Cela, c'est valable surtout sur les 15-20 dernières années avant la fin de la Yougoslavie. Auparavant, la Slovénie a dû sortir de la Seconde Guerre mondiale particulièrement éprouvée parce qu'elle était d'abord géographiquement frontalière avec l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie. Depuis 1938, l'Autriche était allemande. Et il y a eu une période d'occupation qui a été rude. Il y a eu des exactions post-Seconde Guerre mondiale et un phénomène d'épuration qui a été aussi extrêmement rude. Et la Slovénie était dans un pays qui était communiste, mais plus ouvert que les autres pays communistes, puisque la Yougoslavie ne faisait pas partie du pacte de Varsovie. Et elle était peut-être plus ouverte que les autres ex-républiques yougoslaves du fait de sa position géographique qui, à partir des années 60, est devenue un avantage, puisque elle était aux prises directes avec l'Italie et l'Autriche, et les Yougoslaves pouvaient sortir du pays beaucoup plus facilement que les autres habitants des pays communistes. Et des Européens, de l'Ouest notamment, pouvaient aller assez facilement en Yougoslavie. Donc ces échanges ont aussi permis à la Slovénie de se développer davantage.
En 1991, la Slovénie joue un rôle pionnier dans l'éclatement de la Yougoslavie.
Il faut rappeler que la Yougoslavie avait sur le papier un système assez décentralisé, puisque chacune des six républiques yougoslaves avait sa capitale, sa constitution, son parlement, et que dans l'absolu, il y avait une forme de décentralisation du pouvoir. Dans la pratique, c'est la Ligue des communistes yougoslaves qui dirigeait le tout, jusqu'à ce que finalement, après la mort de Tito en 1980, chacune des républiques yougoslaves prenne le pas finalement sur la fédération yougoslave. Et c'est le fait que la République de Slovénie a commencé à prendre le pas sur la politique fédérale qui a à la fois amené des réformateurs communistes au pouvoir en Slovénie dès 1990 et puis la pression de la société civile aussi qui ne voulait pas des directives très autoritaires des Serbes qui représentaient à peu près un habitant sur 2,5 de la fédération yougoslave. Et où l'élection de Slobodan Milosevic en 1987 avait fait planer des menaces de Grande Serbie, c'est-à-dire de rattacher des territoires où vivaient des Serbes en dehors de la Serbie, ce qui indiquait nécessairement des conflits à venir, soit par la guerre, soit par des décisions autoritaires. Les Slovènes n'ont pas voulu de cela et ils se sont embringués dans un système de démocratisation de la société qui a été jusqu'au référendum de décembre 90 et 6 mois après la proclamation de l'indépendance en juin 91.
Indépendance donc en juin 91, intégration à l'Union européenne en 2003, à la zone euro en 2007, il est membre de l'espace Schengen et il a longtemps été pro-européen, mais on voit poindre un sentiment anti-européen, vous nous expliquez, hein, depuis 2010 en Slovénie, pourquoi?
Comme vous l'avez dit, depuis 2010, mais cela va de pair aussi avec la situation intérieure en Slovénie, il y a eu une grande instabilité politique depuis 2011 notamment, avec trois élections législatives anticipées en 2011, 2014 et 2018. Et puis, un certain nombre de partis politiques, alors ça a commencé par l'extrême gauche avec le parti Levica, qui a commencé à remettre en cause la construction européenne, du moins dans sa forme actuelle. Et puis, cela se poursuit actuellement avec la droite conservatrice qui est au pouvoir et Janez Janša qui défie l'Union européenne, notamment depuis le début de la présidence européenne du 1er juillet.
Et oui, effectivement, Janez Janša, le Premier ministre slovène, qui assure la présidence tournante pour 6 mois de l'Union européenne, on le surnomme le Orban slovène en raison de sa proximité avec le Premier ministre hongrois. Est-ce qu'il y a un risque que la Slovénie prenne le chemin de la Pologne et de la Hongrie vers une démocratie libérale?
C'est possible, mais c'est peu probable. Parce que Janez Janša, qui est Premier ministre pour la troisième fois, qui est le principal homme politique en Slovénie depuis une vingtaine d'années, finalement occupe assez peu le pouvoir. Il l'a occupé pendant 4 ans lors de la première présidence slovène de l'Union européenne, où il était pro-européen à cette époque-là. Il est parti maoïste, il est maintenant dans la droite la plus conservatrice, il était journaliste et maintenant il s'attaque aux journalistes. Il a été pro-européen et maintenant il défie l'Union européenne. Donc c'est quelqu'un qui a peu de convictions et qui veut surtout rester au pouvoir. Son problème par rapport au cas polonais et au cas hongrois, c'est que le système politique slovène repose sur la proportionnelle intégrale et donne des majorités qui sont souvent extrêmement fragiles, et la sienne est extrêmement fragile actuellement. Pour rappel, en 2018, il y a eu des élections législatives anticipées qu'il a largement gagnées avec 25% des voix. Mais 25% des voix, ça ne fait à peu près que 25% des députés au Parlement slovène, puisqu'il y a 90 députés. Donc ça veut dire qu'il faut en trouver une vingtaine pour gouverner. Et il est très difficile pour Janša de trouver à chaque fois 20 députés pour gouverner parce que ses positions politiques extrêmement conservatrices et anti-européennes actuellement ne représentent pas la majorité de ce que pensent les députés au Parlement à Ljubljana, ne représentent pas non plus la majorité des opinions en Slovénie. Je ne vois pas une dérive antidémocratique majeure en Slovénie, qui Janša resterait sans doute assez isolé dans ce cas-là.
Merci Laurent Acide.
Merci.